Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
La vraie richesse est l'amour de Dieu. Le pape l'a rappelé ce dimanche lors de la prière de l'Angélus. Il s'adressait une nouvelle fois aux jeunes, une semaine après la fin des JMJ de Rio. Le Saint-Père les a appelés à résister au venin du vide présent dans nos sociétés, basé sur le profit et sur l'avoir. Nous y revenons dès le début de ce magazine. Vous entendrez ensuite une jeune JMJiste française. Elle s'attarde sur le sens de ses journées. Et puis comme chaque dimanche, vous avez rendez-vous avec Sœur Catherine Aubin et son invité dans cette rediffusion, entretien avec le frère Gilles Danroc, dominicain. Bienvenue dans ce magazine. Des milliers de personnes étaient rassemblées ce dimanche place Saint-Pierre, malgré la chaleur assommante qui s'est abattue sur Rome, pour assister à la prière de l'Angélus. Le pape François les a remerciés de leur présence. Il s'est longuement attardé sur son récent voyage apostolique au Brésil à l'occasion des 28e Journée mondiale de la jeunesse, soulignant que les jeunes ne suivent pas le pape, mais Jésus-Christ. Thomas Chabol.
Dimanche dernier, le pape achevait son voyage au Brésil par une messe sur la plage de Copacabana, entouré de quelques 3 millions de fidèles, essentiellement des jeunes venus du monde entier pour participer au JMJ. Une semaine, jour pour jour, après ce grand rendez-vous, le Saint-Père s'est une nouvelle fois adressé aux jeunes, les invitant à ne pas oublier ces journées. Il ne s'agit pas de feu d'artifice, d'un bref moment d'enthousiasme. Ces JMJ, a-t-il indiqué, sont une étape sur un long cheminement entamé en 1985 par le pape Jean-Paul II, puis poursuivi par Benoît XVI.
I giovani non seguono il Papa, seguono Gesù Cristo.
Les jeunes ne suivent pas le pape, mais le Christ qui porte la croix. Le pape les guide et les accompagne sur ce chemin de foi et d'espoir, a rappelé le Saint-Père, souhaitant que les jeunes qui ont participé aux Journées mondiales de la jeunesse puissent traduire cette expérience dans leur vie quotidienne, dans les choix importants de leur vie. Des jeunes particulièrement sensibles à l'absence de signification et de valeur qui souvent les entourent et qui malheureusement en payent les conséquences. S'attardant sur l'évangile de ce dimanche, le pape a mis en garde contre la vanité quotidienne, le venin du vide qui s'immisce dans nos sociétés basées sur le profit et sur l'avoir, qui berce les jeunes avec l'illusion du consumérisme. Il est absurde de baser son propre bonheur sur l'avoir. La vraie richesse, a précisé le pape, est l'amour de Dieu partagé avec les frères.
Le pape a remercié les Brésiliens, peuple généreux, pour leur accueil. Il a également remercié le Seigneur pour le bon déroulement des JMJ de Rio, pour le grand don qu'ont été ces journées pour le Brésil, pour l'Amérique latine et pour le monde entier. Après la prière de l'Angélus, le Saint-Père a salué en particulier les curés du monde entier, dont on commémorait ce dimanche le patron, Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, et évoqué la mémoire du pape Paul VI, mort le 6 août 1978, il y a 35 ans, le jour de la fête de la Transfiguration. Vous venez de l'entendre, le pape François est longuement revenu ce dimanche sur son voyage au Brésil. Un voyage, le premier à l'étranger, qu'il a qualifié d'étape merveilleuse. Durant cette visite, il est allé à la rencontre des jeunes venus des 5 continents. Parmi eux, Christelle, chaldéenne du diocèse de Pontoise en France. Elle évoque la joie ressentie durant ces JMJ de Rio et explique l'impact que ce grand rendez-vous aura sur sa vie personnelle.
Beaucoup de gens ont fait part d'une joie qui est exceptionnelle. Ici, d'un sentiment d'apaisement et d'amour très fort. Et on a eu une catéchèse, un cours où un prêtre nous disait clairement que Dieu est amour. Et si on sent toute cette joie, tout cet amour, en fait, c'est juste parce qu'on a oublié toutes les futilités. On a laissé en France tout ce qui nous bloquait, qui nous éloignait de l'amour de Dieu. Et comme ici, on est revenu dans un rapport simple, on laisse Dieu venir parmi nous. Et comme il est là, ben on le sent, l'amour. Et tout l'amour qu'on sent, en fait, c'est la présence de Dieu.
Toi, comment tu penses que cette expérience va pouvoir ensuite être concrétisée en France et apporter ses fruits et maintenir un peu cet élan ?
Moi, en France, déjà, après beaucoup toutes les GMJ que j'ai faites, à chaque fois que je suis rentrée avec quelque chose en plus. Et en fait, ici, j'ai vu, parce qu'avant, j'étais pas dans l'organisation, j'étais pas non plus chef de groupe, et j'ai vu que je peux apporter aux autres, pas prêcher la bonne parole, parce que je suis pas non plus une experte de la Bible, mais j'ai vu que je peux leur apporter, moi, mon expérience, apaiser des cœurs juste avec des mots simples. Et je pense qu'en entendant des gens parler, j'ai toujours eu envie, mais là ça se concrétise de plus en plus, c'est de m'arrêter ma carrière pendant 6 mois ou 1 an, partir dans un pays d'Amérique latine et aider les enfants. Ça c'est déjà quelque chose qui pour moi se mûrit ici, c'était juste une idée avant, maintenant ça se mûrit. Mais j'ai envie de rentrer et sincèrement ce que j'ai pensé ici, ça m'est venu, c'est de créer un groupe écoute jeune au niveau de la paroisse, pour que les jeunes qui ont du mal avec l'Église puissent voir qu'en fait l'Église c'est pas quelque chose qui t'empêche de vivre. On peut être très bien être jeune, sortir, faire la fête et aussi avoir une foi immense. Et ça, faut pouvoir l'expliquer afin de pouvoir en fait faire comprendre aux jeunes que l'Église c'est pas fermé. On peut être jeune et s'éclater et être chrétien et bon chrétien. C'est juste une façon de vivre.
C'est un sentiment de liberté plus grand ici, en Amérique latine, où la foi est quelque chose de mieux perçu, mieux vécu, accepté.
C'était le pape qui disait « N'ayez pas peur d'être chrétien, n'ayez pas honte d'être chrétien ». Et cette phrase, elle est bien parce qu'en France, des fois, on n'ose pas le dire. Moi, j'ai l'impression qu'on est marginalisé, qu'on nous tape dessus à chaque fois. Moi, j'ai plein d'amis ici qui me disent « Je porte pas ma croix parce que je veux pas me prendre des remarques. Je porte pas ma croix en France parce que ceci, parce que cela ». Parce qu'en France, on a l'impression qu'on doit cacher notre religion. On n'est même plus dans la laïcité. La laïcité, c'est le respect, la tolérance des religions. Mais en France, on tape sur les religions tout le temps. On a honte de dire qu'on est chrétien. Et ici, en fait, c'est normal. La foi, elle est grande et on le sent partout. Dans le quotidien, on sent partout que les gens, ils peuvent vivre leur foi librement. En France, la notion de laïcité, elle a été abusée. On peut très bien être un pays laïque. Mais en France, on a l'impression qu'on ne peut plus vivre notre religion librement, non?
Comment mettre en œuvre alors cet élan missionnaire, cet appel à la mission qui est lancé à CJMJ de Rio?
On ne vous demande pas déjà d'aller toquer aux portes. Vous pouvez le faire. Il y a 10 000 façons, chacun à sa façon. Si vous voulez accoster des gens dans la rue, allez-y. Il y a des gens qui sont moins à l'aise. Mais d'abord, regardez chez vous, regardez votre petit frère, regardez les gens autour de vous. Moi, ma façon à moi, je suis plutôt dans... Soit en sorte d'être un bon chrétien... afin que tu donnes aux gens envie d'être chrétien. S'ils viennent vers toi et te demandent « Mais qu'est-ce qui te rend si heureux ?» qui fait qu'en fait, toutes les futilités passent derrière, ben moi, c'est ma foi.
C'est un témoignage de vie ?
Ah oui, bah oui. De toute manière, la foi, c'est une vie. Si on a compris ce qu'est la religion chrétienne, la religion catholique, elle est amour. Donc si elle est amour, on peut être que heureux. Qu'est-ce que vous voulez de plus ?
Christelle, GMJiste française, interrogée par Olivier Tosserie. Je vous laisse à présent, compagnie de sœur Catherine Aubin et de son invité, pour une rediffusion estivale. Entretien avec le frère Dominique Gilles d'Enroc, actuel aumônier des équipes internationales du Rosaire. Il s'attarde sur la spiritualité du Rosaire, c'est-à-dire comment cette prière méditative fait entrer celui qui la pratique dans sa demeure intérieure pour y être renouvelé par l'Évangile. Le Rosaire est d'abord une prédication de l'Évangile, nous explique le frère d'Enroc, et contribue à une évangélisation de proximité.
Frère Gilles d'Enroc, vous êtes responsable au plan international des équipes du Rosaire. Alors une question toute simple, vous priez le Rosaire et comment le priez-vous ?
Oui, je prie, tous les jours. Je le prie, mais en même temps je le reçois de l'ordre de Saint-Dominique et de la famille dominicaine qui depuis Saint-Dominique, mais aussi depuis le XIVe siècle de façon plus organisée, a compris que le rosaire était d'abord une prédication de tout l'Évangile. Et en ce sens, en tant que frère prêcheur, en tant que dominicain, je prie le rosaire pour qu'il devienne ma demeure, qu'il devienne mon imaginaire, pour qu'il devienne l'inspiration, le lieu d'inspiration de ma prédication.
Expliquez-nous davantage. Vous dites que le rosaire est votre demeure. Pouvez-vous nous expliquer ?
Bien, d'abord, je crois que ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'il s'agit d'une prédication et d'une école de prière centrale pour la foi chrétienne, et non pas une dévotion qui serait une manière affective, personnelle, subjective de dire je prends un morceau de la révélation, de l'évangile, de la vie de Jésus, et puis j'y suis attaché personnellement. Alors qu'il s'agit de prendre la totalité de l'évangile. Je crois que nos frères Alain de la Roche, du temps de Saint-Vincent Ferrier, je viens d'étudier la prédication justement des frères prêcheurs au XIVe siècle, il y a la découverte que on ne prêche pas en faisant des leçons sur des thèmes, qu'ils soient des thèmes théologiques, qu'est-ce que Dieu, ou des thèmes le plus souvent de la vie morale. Et donc là, il s'agit d'un recentrage sur l'Évangile. Et on a avec le rosaire, tout d'abord, la vie de Jésus en 15 tableaux, les mystères joyeux, douloureux et glorieux. Et maintenant, grâce au pape Jean-Paul II, qui a repris une intuition du fondateur des équipes du rosaire, le père Ekem, il y a aussi les mystères lumineux, c'est-à-dire la vie publique de Jésus. Et ça, c'est très important pour la prédication des frères prêcheurs et la prédication de l'Église tout court, parce que c'est in medio ecclesiae que nous faisons ça. Nous faisons ça pour l'Église, pas pour une boutique dominicaine. Donc on a tous les mystères des 15 ou 20 tableaux nous permettent de suivre Jésus de l'Annonciation à la Résurrection, à l'Ascension, avec la fête du 15 août, l'Assomption de Marie, on a les conséquences de la résurrection pour notre vie, à travers celle de Marie. Et en même temps, chaque fois que nous disons « Je vous salue Marie », c'est comme une espèce de grand élastique qui nous remet au centre de notre foi, l'incarnation. Parce que quand nous prions, nous pouvons avoir 1000 idées sur Dieu dans une minute. Là, il s'agit de sortir de notre production d'une prière, d'une relation avec un Dieu que nous choisirions à ce moment-là, mais c'est la réception d'un Dieu qui se révèle par l'incarnation en plénitude. C'est ça qui fait la demeure de ma prédication, c'est l'Évangile. Donc il faut bien que l'Évangile soit vivant pour moi. Et chaque mystère du rosaire, avec la dizaine, il y a d'abord la lecture ou la mémorisation du mystère, mettons l'Annonciation ou bien la Résurrection. Et puis, il y a la dizaine, c'est là que le rosaire utilise le chapelet. Mais le chapelet n'est pas le rosaire. Le chapelet est simplement, pour moi, la méditation comme les vagues, 10 vagues, la vague de la mer, qui viennent fixer dans ma mémoire spirituelle, dans ma vie intérieure, la page d'évangile de ce mystère. Et cette page d'évangile se met à vivre à l'intérieur de moi.
Ce que vous mettez en jeu finalement dans cette prière méditation, c'est d'abord la lecture de l'évangile, la mémorisation de l'évangile et finalement on peut dire l'habitation intérieure. Et vous comptez sur l'approfondissement de chacun pour entrer dans cette prière du rosaire ?
Tout à fait, c'est exactement ça. Vous avez décrit toutes les étapes qui me semblent récapituler la démarche de la spiritualité de l'ordre de Saint-Dominique, puisqu'il s'agit de prêcher l'évangile, mais prêcher l'évangile, ça ne peut être que l'expression d'une habitation de l'évangile en soi. Alors, il y a la dimension donc personnelle, par la prière, et dans les équipes du rosaire, nous continuons par l'équipe même du rosaire, la communion d'une communauté de 15-20 personnes qui vont prier ensemble, et cette prière commune, à l'exemple de la liturgie, vient réhabiter ma prière personnelle, et ma prière personnelle vient se fondre dans celle de la communauté. Parce que c'est un travail une prière d'église, une école de prière centrale pour la foi, et ensuite, par la contemplation de l'Évangile, par la méditation qui intériorise cette contemplation, nous devenons porteurs de l'Évangile, témoins de l'Évangile.
Justement, c'est ma question, frère Gilles d'Enroc. Où se place l'évangélisation dans votre pratique du rosaire ?
L'évangélisation, c'est d'abord recevoir l'Évangile, le recevoir personnellement et en Église. Et ensuite, cet évangile reçu n'est pas une grâce seulement particulière, c'est une grâce d'Église, c'est une grâce que je reçois pour la partager. D'ailleurs, je pense que c'est ça le régime même de l'évangélisation, c'est une grâce reçue venant de Dieu, parce que nous sommes justement membres d'une Église croyant d'une religion qui est une religion révélée. Non pas, enfin, je reprendrai ici le mot de Zendel, Maurice Zendel, la foi chrétienne, ce n'est pas une invention, c'est une découverte. Découvrir, ça veut dire recevoir. Et recevoir qui vient de plus haut, de plus loin, de plus gracieux que soi. Recevoir pour être habité, et être habité de façon communautaire, ecclésiale, ça veut dire porter l'Évangile par proximité auprès de toutes les personnes que je vais rencontrer. Que ces personnes soient dans le cercle de la famille, le travail, le voisinage, là où nous, on habite, là où on vit. Donc par contagion, non pas par une sorte d'immense usine à gaz qui serait une évangélisation au lointain seulement, avec un corps de spécialistes, les missionnaires. J'ai été 20 ans missionnaire en Haïti. Je crois comprendre de l'intérieur ce que ça veut dire. Mais même en Haïti ou à Montpellier où j'habite, c'est par la proximité, par la vie avec les gens, que nous pouvons porter cet évangile reçu et aller même plus loin. Voir comment j'ai besoin, moi, pour vivre cet évangile, j'ai besoin de voir combien il habite l'autre qui, peut-être un peu comme les cathares du temps de Saint-Dominique, était porteur de pépites d'évangile sans le savoir ou sans pouvoir le nommer. Et ce qu'a fait Dominique en rencontrant l'aubergiste en 1203 à Toulouse, il n'a fait que écouter pendant toute une nuit un cathare qui, en confiance dans la relation de rencontre véritable, ils étaient que tous les deux, les autres étaient allés se coucher, il y a pu y avoir un échange de confiance. Et dans cet échange de confiance, le cathare a pu porter des valeurs d'évangile, des pépites d'évangile que saint Dominique a pu capter pour nous créer, nous les dominicains, et pour nous créer non pas pour nous, mais pour toute l'Église, in medio ecclesiae.
Frère Gilles Denroc, vous avez parlé de vos 20 ans à Haïti, de votre expérience de frère prêcheur, de frère prêcheur qui prie le rosaire et donc d'évangélisateur aussi. Comment le rosaire fait-il le lien entre ces différentes missions?
En 1975, c'est Evangelii Nuntiandi, 10 ans après le Concile Vatican II. Qu'est-ce qui se passe dans Evangelii Nuntiandi? C'est que le pape Paul VI a pu renouer de nombreux fils du Concile Vatican II pour montrer qu'il n'y avait pas une évangélisation aux limites du monde, en Chine. Il y avait une évangélisation qui réconciliait la vie du baptisé, des communautés chrétiennes et l'évangélisation de proximité. C'est ça que nous essayons de vivre comme missionnaires dans les équipes du rosaire, c'est de prendre en compte le fait de la présence d'un petit groupe de chrétiens qui s'unissent pour être la présence d'Église au milieu du village, au milieu du quartier. Il y a une présence d'Église, une présence fraternelle. La porte est ouverte, il y a la chaise du prochain qui attend. On porte un évangile de simplicité, un évangile de fraternité. En fait, nous sommes capables de Dieu. Et c'est ça qu'il faut développer. En tant que baptisés, nous sommes une coupe ouverte, un vase qui se remplit de la grâce. Mais pour cela, il faut le recevoir par la prière afin que cette grâce se mette à déborder de la coupe.
Merci, frère Gilles Denroc.
Merci.
C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi.